Vivry.
Il se retape sur la tête, boum.
Et maintenant, mes amis, messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses. T'as besoin de comprendre.
Bonjour. Pour le printemps des poètes, l'idée des élèves de l'école Makarenko, c'est de devenir des passeurs de poèmes. Aujourd'hui, grâce à Sandra et Christelle, maîtresses de petite section, l'école maternelle Robespierre rejoint les passeurs de poèmes.
Quand je suis une passeuse de poèmes, j'offre le poème qui me plaît. Ce poème me plaît, mais comme on peut l'interpréter de façon différente, je fais attention à ne pas induire ce que je ressens pour que chacun puisse l'écouter complètement.
En classe, les élèves ont réfléchi à ce que c'était être un bon passeur de poèmes.
Une géniale passeuse de poèmes. Il faut parler assez fort pour être entendu.
Quoi ?
Il faut parler fort pour être entendu.
Ah, oui, ça va. Il faut articuler pour être comprise.
Non, ça sert à rien de faire des mimiques.
Et il ne faut pas aller trop vite. Et puis... Vous souvenez-vous de cette délicatesse, faire attention à ne pas exprimer nos émotions pour laisser les autres ressentir le poème à leur manière?
Quand la classe estime qu'un élève est prêt, elle l'envoie en brigade d'intervention poétique dans une autre classe.
Une bip. On entre dans une classe, on se place devant les élèves et on offre sa poésie, comme toutes celles que vous allez maintenant entendre.
Le chat et le soleil. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir deux morceaux de soleil. Maurice Carême.
Le coq finit par croire que c'est lui qui fait monter le soleil, comme de Chazal.
Aujourd'hui, le soleil aujourd'hui, je me le suis donné. Je n'ai mis plein de mes poches et dans d'autres endroits où mes mains ne vont pas. Je peux escalader ce qui me séparait. Je peux montrer aux gens comment c'est la lumière. Eugène Guilovic.
Le coq finit par croire que c'est lui qui fait monter le soleil. Ma gueule de chaval.
Enfant terrible, les parents sont étranges pour leurs enfants, chers anges. Quand ils naissent, ils les fessent, quand ils meurent, ils les pleurent. Maurice Fombeur.
Le coq fuit, ni par quoi que c'est lui qui fait monter le soleil. Malcolm de ça.
Tu me dis que tu n'aimes ni le noir ni le gris. Le jaune ne se voit pas assez et le rose est trop timide. Tu préfères le bleu fumé de cheminée et le rouge auto de papa. Tu as déjà les idées et les couleurs. Bien arrêté, un jour tu apprendras que les couleurs et les hommes se mélangent. Et le monde, alors, est bien plus beau. Joël Sadelet.
Et finit par croire que c'est moi qui vais monter sur elle. Par contre, ça j'aille.
Le marteau piqueur. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui attaque? Tac, tac, tac. Quel est ce boucan? Tac, tac, tac. Quel est ce potin? Tacatacatam. Quel est ce ramdam? Un marteau piqueur sur le macadam. Claude Clément.
Pour écrire sur les arbres, il faut du papier. Pour avoir du papier, il faut des arbres. C'est pourquoi, pour chaque arbre coupé, plantez un poème. Pour chaque poème lu, imaginez un arbre. Constantin Keiteris.
Un jour, j'habiterai dans le ciel. Pour connaître mon adresse, il faudra la demander aux tourterelles ou aux moineaux. Et tant pis pour vous si vous ne parlez pas le langage des oiseaux. Emmanuel Mose.
À Atessa, Lilou et Nour. Petite, petite, petite fille. Aux petits pieds, tout petits pieds. On peut marcher, nager, voler, mais va plus loin. Qui sait rêver? Petite, petite, petite fille, chante, danse, ris, danse ta vie. Il te fait toujours d'un sourire pour chasser les loups de la nuit. Jean-Pierre Siméon.
Le vent sous la pluie, le vent sous la pluie s'écroule sur ma vie. Ma vie est jolie comme un abri, ma vie est jolie comme un parapluie. Les enfants se bagarrent comme des léopards bizarres. Ma poésie est jolie. Qu'en dis-tu, mon ami? Pour ma maîtresse Élodie, Lucie Dorien.
Petite section de maternelle à l'école Robespierre, nous avons entendu Fahim, Nani, Volodia et Akram. En CE1C de l'école Makarenko, merci à Maxime et encore Maxime, Mohamed, Sundus, Jana et Kaila. Enfin en CM1A, Lasconi, Iman et Lucas.
Sa nuit avec le temps, tout s'évanouit.
Alors Léo Ferré, il est là à ma droite pour deux ouvrages qui paraissent tous les deux aux éditions Plasma, Testament phonographe, et puis ce qui est un recueil de vos chansons, de vos poèmes, nous en parlerons tout à l'heure, et puis des conversations que vous avez eues avec journalistes, s'appelle Françoise Travelet, dit donc Ferré, donc aux mêmes éditions Plasma. À côté de vous, Cathy Stéphan, qui est journaliste à Quimper et qui publie chez Grasset son premier roman, Une poignée d'eau, dit-il. À côté de Cathy Stéphan, Jean Anglade, ancien professeur de lettres et d'italien, mais enfin surtout écrivain, une cinquantaine de livres, des romans, des essais, des traductions aussi. Et votre dernier roman paraît chez Julliard sous le titre La Bonne Rosée. Et en face de vous, le célèbre auteur du Cheval d'Orgueil, Pierre-Jacques Elias, qui est ici parce que, non pas pour un nouveau livre que vous publiez, mais parce que vous avez préfacé un admirable ouvrage d'Antoine Silvert, « Toi, nous, le cri d'un enfant auvergnat », qui paraît dans l'excellente collection Terre humaine aux éditions Plomb. Et puis enfin, Karine Berriot, qui est critique littéraire, qui est spécialiste de l'histoire de l'art, traductrice, et qui publie son deuxième roman aux éditions du Seuil sous le titre « Parlez-moi de Louise ». Léo Ferré, avec le temps, est-ce que vous vous rappelez dans quel était votre état d'esprit, dans quelles circonstances vous avez écrit cette chanson?
J'étais projeté au piano en Italie. Je faisais en 2 heures par les musiques. Et...
En 2 heures?
Oui. Parce que, Et puis ça, vous savez, je ne retourne pas en arrière. Mais là, c'était quelqu'un d'autre qui me dictait ça, vous savez. On n'est pas de... Nous sommes les intermédiaires, vous savez, M. Pivot. Hein. Il n'y a personne. Personne n'existe. Moi, je suis comme ça parce que... Allez savoir, je suis un chiffre. Et... Je me suis mis au piano, je fais ça. J'ai écrit, voilà, c'est tout. Je ne peux rien dire.
Alors, les paroles de cette chanson qu'on retrouve donc, page 219, dans le testament phonographe, et on lit ceci... Avec le temps, va tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots.
Voici le sommaire.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les CM2 de l'école Langevin. Je m'appelle Shaima.
Et moi, Tommy.
Moi, c'est Olivia.
Et moi, Mathis. Aujourd'hui, sur Radio Cartable, nous allons vous donner les résultats du concours de Radio Trouille.
Mais avant, nous allons vous expliquer le fonctionnement des votes et vous présenter les 3 membres du jury.
Anna est au collège. Elle a beaucoup participé à Radio Cartable.
10 élèves de CM1A de l'école Makarenko ont voté. Grâce à leur professeur, Elodie Volet.
Et nous accueillons aujourd'hui la 3e jurée, Claire Maugue-Puget, conseillère pédagogique.
Le jury a voté en fonction de 4 critères. L'originalité, la création sonore, l'interprétation et le trouillomètre. Vous vous demandez sûrement ce qu'est un trouillomètre. Le trouillomètre est un mot inventé qui mesure les émotions. Enfin, surtout la peur.
Nous allons entendre à nouveau les 4 histoires.
À 14h20, la forêt de Radio Cartable, inventée par le CP3 de Maurice Dorès B.
À 14h27, bataille à Monstreville par la classe de CE1A de Maurice Dorès B.
À 14h37, la cryptantée. Les autrices sont 3 élèves de CM2 de Maurice Dorès B. Yuna, Marthe et Iris.
Enfin, à 14h43, nous entendrons Fin glaciale à Chambéry, écrite et interprétée par Adèle en CM2 à Maurice Dorès B également.
Enfin, à 14h51, nous décernerons les prix. Je peux déjà vous dire que ce sont des DVD de films qui font peur.
D'ailleurs, avant d'écouter ces 4 histoires, on aimerait bien savoir de quoi elles parlent.
Dans la forêt de Radio Cartable, je me rappelle surtout la chimère qui sauve les enfants.
Ah oui, à un moment, ils sont enfermés dans le studio de Radio Cartable. Mais qu'est-ce que c'est une chimère?
C'est une créature inventée par 2 animaux, par exemple, avec un cochon et une grenouille. On coupe chacun en 2 et on crée...
Une quenouille?
Oui! Et elle crie...
Dans une bataille à Monstreville, je me souviens d'un monstre qui est apparu soudainement dans une classe. Il mangeait tout, les tables, les chaises et les enfants.
Dans cette histoire, Yves est celui qui casse les oreilles, qui n'arrête pas de rire et qui ne fait que des blagues.
Le cryptanté. C'est l'histoire d'une famille qui allait rendre visite à la tombe de la tante de la grand-mère.
L'enfant tout excité courait partout. Et tout d'un coup, il se retourne et ne voit personne. Les parents l'appelaient, mais il ne répondait pas. Tout d'un coup, il crie un cri d'horreur et de peur.
Dans Fin glacial à Chambéry, une jeune fille reçoit un appel, le soir, d'une voix étrange qui lui dit que sa grand-mère est aux urgences. Elle hésite à y aller tout de suite, mais préfère rester dormir chez elle. Et le lendemain, elle se prépare pour un voyage luxueux.
Dans la classe de CP3.
Dans l'école de Maurice Thorez B.
Le lundi 30 février
2020.
La forêt de Radio Cartable.
Il était une fois dans l'école Maurice Thorez B. Une classe de CP qui avait vécu une aventure terriblement affreuse. Comme tous les matins, mon élève écrivait la date au tableau. Aujourd'hui, c'était ma honte. Lundi 1er mars. À ce moment-là, la maîtresse devint toute rouge de colère. Ses sourcils étaient de travers et elle cria.
« Quel jour sommes-nous, Mao ?»
Tout blanc, les larmes aux yeux, il répondit d'une petite voix.
Ben, le lundi 1er mars.
La maîtresse rougit.
Saperlipopette, tu sais bien que nous sommes le 30 février, espèce de gros bébé.
Toute la classe était terrorisée. Les élèves se cachèrent sous leur table. La maîtresse ne respirait plus. Elle était de plus en plus rouge. Elle ne bougeait plus.
Les élèves sortirent tout doucement, en silence dans le couloir. Et là, ils virent des bonbons. Tout contents, ils les mangèrent et sans s'en rendre compte, ils se retrouvèrent devant le studio de Radio Cartable. Un bruit étrange en sortait.
Ils ouvrirent la porte et virent une forêt de bonbonniers des sur lesquels poussent des bonbons. Les bonbons les attireraient dans la forêt. La porte se claque et disparut.
Ils entendirent une voix de fantôme dire.
Bienvenue dans la forêt de Radio Cartable.
Les enfants étaient effrayés, terrorisés, terrorifiés. Mais tout le monde le sait. Les enfants sont très gourmands.
Vous souvenez-vous de... Ocel et Cretel,
ils cueillirent tous des bonbons et se régalent.
Miam, 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 miam.
Mais un des bonbons était l'interrupteur. Dès qu'il le mangea, ils se retrouvaient tous dans le noir.
Ah, au secours, j'ai peur du noir. Aclaca.
Et les lumières clignotèrent.
Ça bug ou quoi?
Les lumières se rallumèrent. Ouf!
Les enfants découvrent qu'ils étaient entourés par... renard qui était perché sur un arbre.
Alors, comme ça, vous avez touché à nos bonbons, non d'une brouette en bois. Je vous avais prévenu à cause de vous, nos arbres sont abîmés. Nous avons plus de bonbons. Bande de cornichons, vous ne reverrez jamais votre maison.
Les méchants s'approchèrent du gentil. Soudain, un super-héros arriva avec toutes ses chimères. Un colon qui faisait un poisson qui faisait un chausson qui faisait une touche qui faisait une varée qui faisait il griffèrent les méchants et mordirent les mangeurs.
Le super-héros redessina une porte et dit aux enfants « Sortez d'ici avant que tout disparaisse !» Les enfants se précipitèrent dehors, la porte claqua, il y eut un grand bruit, puis le silence. Alors, les élèves virent leur maîtresse arriver. Elle était redevenue normale, mais ne se souvenait de rien.
Les enfants lui racontèrent tout, alors elle les remercia. « Vous m'avez sauvé la vie, merci les enfants !» Une douce musique sortait du studio de Radio Cartable. La maîtresse entra et trouva une boîte posée sur la table. « Prenez cette boîte de la part de super-héros !»
Dans cette boîte, il y avait une graine. On l'a plantée dans le petit jardin de l'école. Et devine ce qui a poussé. Un bonbonnier.
Radio Cartable, notre histoire va vous faire peur, très peur.
Il était une fois une ville reculée qu'on appelait Monstreville, près de la forêt des monstres, à quelques pas de Paris.
Majesté Méchité aime bien se cacher dans les buissons et cuisiner des soupes. Il a des cheveux hirsutes et des oreilles de lion. Au matin, il prend des crêpes et aime faire de la gymnastique. Cela le rend fort. Parfois, on l'entend dans la forêt ricaner.
Qui te mange, mouton?
C'est pas toi, Méchité, c'est moi. T'as faim, Méchité? Mange ton pied et ne mange pas le deuxième. Laisse-le pour demain.
Bon, revenons à notre histoire. Ça se passe à minuit et il y a une bataille monstrueuse dans la forêt. On dit que certains cerveaux ont été mangés par un petit zombie.
C'est la nuit. On entend un monstre ou plusieurs monstres faire des blagues sanglantes.
Dans un frigo qui se parle. Il y en a un qui dit à l'autre
Mais t'es vachement poilu, toi.
C'est normal, tu as kiwi, banane.
Tout près, l'école des monstres est un internat. Les élèves n'y sortent jamais. L'un des élèves est Majesté Méchité. Il est gigantesque et très fort. Il aime faire de la gymnastique. Au réveil, ses yeux sont rouges et il n'a pas de cheveux. Il est grognon. Il n'a pas d'amis. Il est seul.
Voulez-vous écouter ma blague?
Comment Dracula prend-il un clou? Mais un accident de vampire!
La maîtresse a été mangée. Il lui a croqué un bras, alors dans le réfectoire, c'est la catastrophe. Les aliments sortis fricots. On entend des bruits de hibou et un cri de loup.
J'aime imiter le cri du loup.
Un nuage noir vient sur Monstreville et aspire l'école des monstres.
Majesté Méchité se fait emporter dans la forêt des anges. Il n'aime pas les anges. D'ailleurs, le dieu de la forêt des anges l'a puni en le rendant trop mignon. Il est furieux, mais il est prisonnier.
Dans l'école des méchants, c'est la guerre. Après avoir tué la maîtresse, il y a du sang sur tous les bureaux des enfants. D'ailleurs, ils ont pris la tête de la maîtresse pour en faire un ballon de foot. Ils ont pris aussi une de ses oreilles pour la mettre dans la serrure. On ne voit plus rien, sauf une ombre passée dans le couloir. Une autre ombre sort par la fenêtre.
La directrice affolée arrive.
Où est la maîtresse du CE1A?
Elle est allée à la piscine.
La directrice sort rassurée. Un bruit de chaise cassée. Le monstre Méchité est revenu. Il a si faim qu'il mange presque chaque enfant de l'école. Mais le fantôme de la maîtresse rôde dans les parages.
Vous m'écoutez encore?
Oui.
Oui. Ce n'est pas grave parce qu'un héros va arriver pour régler nos problèmes et nous sauver. Il va arriver d'une minute à l'autre. Il est bientôt là.
Eh oui.
Avez-vous déjà entendu une pomme chanter?
Non.
Moi, j'ai entendu une carotte râpée.
Salut. Je suis un personnage de l'histoire. Penses-tu qu'il va y avoir un héros vraiment?
J'habite Monstreville et je t'écoute.
Oui, le héros c'est Yves, c'est quelqu'un de très bien et tout le monde le connaît dans la ville. Yves rit tout le temps.
Et tu le monstre avec son rire.
Il y a eu une ville qui s'appelait Monstreville.
Aujourd'hui, en l'honneur d'Yves, celui qui rit, on l'appelle Ivry.
Radio Trouille, vous avez peur. Quelle
Radio Trouille.
Bonjour, nous sommes Yuna, Iris et Marthe. Nous sommes en CM de A et B
à l'école Maurice Thorez B.
Et nous allons vous présenter notre histoire qui fait peur. C'était un après-midi ensoleillé dans un village des Alpes. On ne pouvait rêver mieux comme moment pour aller fleurir la tombe de sa tante. C'était en tout cas ce que pensait Jeannette, l'une des 14 pensionnaires de la maison de retraite de la commune. Âgée de 87 ans, elle mit plus de 2 heures à rejoindre le cimetière situé dans le village voisin. Elle fut donc essoufflée lorsqu'elle arriva au portail. Sa fille, son gendre et leur fils Paul, âgé de 6 ans, l'attendaient devant le cimetière. Ce fut donc à 4 qu'ils en franchirent le portail. Au bout de quelques mètres parcourus, Paul se mit à courir en poussant de petits cris joyeux. Il fut vite hors de vue des 3 adultes. Son père, sa mère et sa grand-mère ne s'en inquiétèrent pas jusqu'au moment où ils entendirent.
Un hurlement a glacé le sang. Un mélange de désespoir, de malheur, de douleur et d'horreur. Les parents de Paul crièrent son nom en vain. Mais il était trop tard, leur grand-mère avait elle aussi disparu. Après une longue nuit passée dans le désespoir, Paul se transformait petit à petit en une ombre sans vie. À son tour, il était prêt à tuer.
Ignorant le danger, Jeannette vagabondait entre les tombes. Soudain, elle arriva devant un caveau très étrange. En effet, le caveau mesurait 5 mètres de hauteur. Et par contre, il était étroit et la peinture s'écaillait sur la porte. Poussée par la curiosité, elle s'avança dans la pièce. Elle fut très étonnée de voir que le caveau se prolongeait en un long tunnel étroit. Elle le suivit, de plus en plus intriguée. Jeannette était jusque-là assez calme, mais elle ne put plus contenir sa peur lorsqu'elle arriva dans une crypte sombre où gisait son petit-fils Paul dans une mare de sang. Au-dessus du cadavre se trouvait une forme sombre, maculée de sang. Horreur ! Jeannette ne bougeait plus, paralysée.
Yes, ça fait plaisir. Bon, je décroche.
Allô ?
C'est André, ton grand-père. Ça va ?
Oui, ça peut aller. Mais tu devrais plutôt me demander si j'ai bien dormi. J'ai fait une insomnie de 21h à 4h30 du mat, et à peine je me rendors que tu me réveilles. C'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Bon, pourquoi est-ce que tu m'appelles ?
Alphonsine, écoute-moi. Je suis au centre hospitalier de Chambéry, en Savoie. Ta grand-mère est allongée en face de moi. Elle a eu une crise cardiaque. Les médecins la considèrent comme une patiente à risque. Son cœur bat très lentement et elle est en insuffisance respiratoire. Elle est encore consciente, mais plus pour longtemps, si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux la voir, c'est maintenant ou jamais. Les médecins estiment à peu près 3 jours d'espérance de vie. C'est ton choix, pas le mien. Je reprenais mon souffle. Mon grand-père n'avait pas une voix normale. Enfin, je veux dire, il était sur le point de perdre mamie, mais quand même. Pas un bonjour, pas un mot gentil. Mais Qu'est-ce que je me disais ? C'était mon grand-père quand même et il était sur le point de perdre mamie. Ok, j'arrive. Je t'aime et dis à mamie que je lui fais d'énormes bisous, qu'on la soutient, qu'on est avec elle, qu'elle va s'en sortir, qu'on pense à elle, qu'on l'aime de tous nos cœurs et que je l'aime. Alphonsine, arrête. Ok, je lui dirai tout ça. Bon, au revoir. Bouleversée. C'est ce que je suis. Je m'appelle Alphonsine Duchesne. J'ai 19 ans, je suis rousse, j'ai les yeux verts et je suis enfant unique. Mes parents sont morts dans un accident d'avion il y a un an. Ils partaient pour le Mexique car mon père et son club de rugby, les petits pères, organisaient tous les deux ans des voyages à destination étrangère. Ils s'appelaient Blandine Brunet et Antoine Duchesne. Mon père et ma mère sont morts le 3 août 2019. Je vis maintenant à Paris, dans le 4e, dans une très grande maison que m'ont légué mes parents. Mon anniv est le 1er avril, donc j'avais déjà 18 ans quand ils sont morts, et j'ai donc pu me débrouiller toute seule. Le frère de mon père est serviteur de la reine d'Angleterre, et il gagne 30 000 euros par mois, donc j'ai droit à 15 000 euros chaque mois. Vous allez croire que je suis une fille du luxe, mais non, oubliez ça. Et sinon, à propos de l'école, eh bien, mon université a fermé à cause du Covid-19. Donc là, eh bien, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus d'école, j'ai pas de parents, et bien sûr, pour couronner le tout, ma grand-mère est sur le point de mourir, et je dois faire le choix si oui ou non, je dois aller la voir pour son dernier souffle. Eh bien, je pense que finalement, je vais continuer ma nuit. Le matin. Bon, allez, je fais ma valise et je pars. Courage, tu peux le faire. Je sors du lit. Je prends une douche et je m'habille. Tenue, pantalon en velours noir et chemise blanche. Je prends mon petit déj et je prépare un sandwich saumon chèvre salade. Je prépare ma valise pour un mois. On sait jamais. Je commande un billet de train pour 11h, plus un taxi. Le temps du trajet est d'à peu près 7h, donc je devrais arriver à 18h. Je prends ma valise et mon sac à dos contenant sandwich plus dessert, bouteille d'eau, MP3, Renault, Pixies, Aldebert, Chopin, Choriste, Queen, Beatles, Jean-Jacques Goldman, un téléphone, une carte de France, plus de Savoie, une boussole, je compte faire des randonnées, mon appareil photo, 3 romans et une BD format poche, un doudou, je sais, j'en ai encore à mon âge, pas de commentaires, une trousse, un carnet, mon porte-monnaie et mon trousseau de clés, et au cas où, hein, un paquet de mouchoirs. Et en route pour l'aventure et pour sauver mamie. Le taxi est arrivé à 10h, comme prévu. Je suis montée et le conducteur a pris mes affaires pour les mettre dans le coffre. J'ai joué au jeu le plus bête du monde, Candy Crush. Nous sommes arrivés à l'écart sans incident. Il est 10h15. J'entre dans un magasin librairie et j'achète un magazine et des anis à la menthe fraîche. Je rentre sur le quai, je monte dans le train et je me fraye un chemin sur la gare. J'arrive dans le train et j'arrive à Chambéry. Je rentre dans l'hôpital, je demande à la concierge où sont Madame et Monsieur Duchesne. Madame et Monsieur Duchesne n'ont jamais mis un pied dans cet établissement, désolée. Mais si, si, cherchez bien. Non, non, je ne l'ai pas. D'accord. Je trouvais ça bizarre, très bizarre. Mes grands-parents n'étaient pas rentrés dans cet hôpital. Bon, je sors de l'hôpital et je décide de rentrer chez mon grand-père à pied. Je pousse la porte de chez lui. Qu'est-ce que je vois dans son salon ? Deux corps morts, lui et sa femme. Je m'évanouis. Il paraît que deux randonneurs, amis de mes grands-parents, voulaient lui rendre visite. Ils ont poussé la porte, comme moi, de sa maison et ils m'ont trouvé évanouie avec deux corps morts, leurs amis. Ils ont appelé la police, l'hôpital. Évidemment, on n'a rien pu faire pour mes grands-parents. Par contre, moi, évidemment, je suis toujours en vie. On a pu arrêter celui qui avait fait ça. Depuis, je ne sais pas pourquoi, je me suis engagée dans la police. Et j'aime toujours autant ce métier.
Radio Trouille. Radio Trouille. Radio Trouille.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, bonjour à tous. Je suis Claire Mogue, je suis conseillère pédagogique à Ivry-sur-Seine. Conseillère pédagogique signifie que je donne des conseils dans le domaine du comment apprendre et comment faire apprendre. Alors Mathis, pour me présenter plus particulièrement, donc ma mission principale est d'accompagner pédagogiquement les enseignants et les équipes des écoles d'Ivry, que ce soit par des formations, des ressources, ou parfois aussi un suivi individualisé pour les enseignants qui entrent dans le métier. Et avant d'être conseillère pédagogique, j'ai été enseignante de la maternelle jusqu'au CM2, ce qui est une expérience bien évidemment très utile pour ma fonction actuelle.
Quel sentiment avez-vous ressenti lorsque vous avez écouté les histoires ?
Alors Olivia, en écoutant les histoires, j'ai ressenti beaucoup de choses. Du plaisir à les écouter, et puis effectivement parfois avec le suspense et les ambiances créées, une peur, une attente hein, de ce qui va se passer, hein, de mystérieux dans les histoires créées. Et puis aussi également un partage de joie qu'on entend véritablement dans certaines histoires également, avec j'ai cru comprendre beaucoup d'amusement dans les enregistrements lorsqu'ils ont eu lieu. Et ce que j'ai entendu aussi, Olivia, derrière chaque histoire, c'est le travail d'écriture, l'entraînement aussi à se lire, à se relire à voix haute. On a l'impression que c'est facile comme ça en entendant les histoires qui sont fluides, agréables à entendre. On a l'impression que c'est facile et que ça vient tout seul, mais je sais le travail que ça peut représenter. Un travail de réflexion, seul ou à plusieurs, pour la sonorisation de l'histoire également. J'ai entendu que certains ont utilisé des instruments de musique, différents types de bruitage, comme à certains moments, par exemple, du papier froissé, et puis aussi beaucoup de modulation de la voix.
Je crois que le jury a beaucoup apprécié la cryptantée. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette histoire ?
Alors, Shaima, ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est tout d'abord l'interprétation. Ce qui m'a plu dans La forêt de Radio Cartable, c'est cette histoire d'arbre à bonbons qui m'a semblé très originale. Et puis, dans Bataille à Monstreville, c'est le côté humoristique, bien sûr, et de vouloir tuer les monstres avec le rire. J'ai trouvé ça tout à fait poétique. Et puis, bien sûr, avec le jeu de mots sur la création du nom de la ville d'Ivry. Voilà. Sur la fin glaciale à Chambéry, je trouve aussi qu'il y a un travail très intéressant et très riche en ce qui concerne l'interprétation et puis l'écriture de l'auteur. Voilà.
Comment vous avez fait pour donner les notes ?
Tu as bien raison de poser cette question sur les notes, parce que ça a été un moment compliqué pour tous les membres du jury d'attribuer une notation, hein, avec des critères que nous avions, donc qui vous ont été aussi communiqués. Donc effectivement, l'originalité, notée sur 5 points, la création sonore également sur 5, l'interprétation sur 5, et le trouillomètre, sur 5 aussi. Alors, quand on écoute une histoire, quand on reçoit ces belles créations sonores, effectivement, il y a une grande part de subjectif, et on a aussi envie de savoir derrière qu'est-ce qu'en ont pensé les élèves du jury, qu'est-ce qu'en ont pensé les autres adultes du jury, c'est-à-dire avec leurs mots, leurs ressentis. Évaluer, ça veut dire étymologiquement donner de la valeur. Donc effectivement, les notes que l'on reçoit, que l'on donne à l'école, elles sont là pour valoriser un travail, valoriser un effort, valoriser aussi un progrès. Et donc, ce qu'elles doivent exprimer, ces notes en termes pédagogiques, c'est plutôt un message, en fait, un message vers les élèves, plutôt qu'une mesure, en quelque sorte. Alors là, le message que l'on donne dans le cadre de ce concours, en tout cas le message que j'aimerais donner, c'est que vos histoires, toutes d'une grande qualité, les unes et les autres, Vos histoires, j'espère, donneront l'envie à encore plus d'élèves l'année prochaine de participer à ce concours de Radio Trouille.
Est-ce que cela fait une différence que les histoires soient inventées par les grands de CM2 ou les plus petits de CP ou de CE1?
Oui, je pense que dans la conception, que dans l'écriture, que le travail de vocalisation des histoires n'est pas le même pour les différents niveaux de classe, bien sûr. Qu'on peut développer les compétences langagières des élèves de manière progressive selon les niveaux de classe.
Est-ce que vous aimez faire radio cartable? À quoi ça sert?
Ça sert à savoir s'exprimer si on a un peu la honte. On peut combattre la peur de s'exprimer devant tout le monde.
Et si on est timide?
Alors Mathis, ta question, j'aime beaucoup Radio Cartable tout court, en tant qu'habitante. J'habite Ivry depuis 17 ans et effectivement, je trouve que c'est un très bel outil de communication offert aux écoliers ivriens. Mais je ne fais pas Radio Cartable. Je suis invitée aujourd'hui par Gaëlle Riard pour cette interview, pour répondre à vos questions. Néanmoins, en tant que conseillère pédagogique, je trouve que c'est vraiment un très bel outil pédagogique pour la vie.
Radio Trouille.
Maintenant, nous allons remettre les prix.
Merci à Leslie Darrel du cinéma Le Luxi qui a choisi les DVD offerts aux gagnants.
Et merci à tous les participants ainsi qu'au jury.
Le micro d'or est décerné à la Cryptantée. Le prix est le DVD de L'homme qui rétrécit de Jack Arnold. Après une explosion nucléaire, un homme voit sa taille diminuer un peu tous les jours. Un vrai cauchemar lorsque le chat de sa maison le prend pour une souris.
Radio Trouille.
Le prix de l'histoire la plus grinçante est décerné à Bataille à Monstreville. Le prix est le DVD du mystère du lapin-garou avec les célèbres Wallace et Gromit. Une énorme créature mange tous les fruits et les légumes de la région.
Radio Trouille.
Le prix de l'histoire la plus truculente est décerné à la forêt de Radio Cartable. Le prix est le DVD de Monstres passés monstrueux et une suite de films courts et des monstres gentils. Ce sont des films d'animation.
Radio Trouille.
Le prix de l'histoire la plus époustouflante est décerné à Fin glacial à Chambéry. Le prix est le DVD de L'homme invisible de James Whale. Un médecin découvre le moyen de devenir invisible. Un grand classique plein d'effets spéciaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine sur 89.4 FM.
Au revoir.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
L'ennemi arrive de l'Est. Faut bien qu'il vienne de quelque part, nous dit le capitaine Bovard à la gare. J'avais mon sac et tout le reste, quelques litrons, un saucisson. On nous a mis dans des camions. Et allez donc, Il nous fallait pas pétouiller. Début de la guerre était fixé à 8h pile ce lundi-là. Alors voilà qu'on se retrouve sur la position. Il y avait Guignet, le gros bugnon, et puis un bleu. Notre mission, garder un pont. Je m'en vais, le pays m'appelle. Adieu, mamie, j'ai le cœur gros. J'ai mon couteau, j'ai ma gamelle. C'est pas facile d'être un héros. La guerre, c'est pas une mince affaire. J'arrive pas à m'y habituer. Bien qu'elle revienne de façon régulière chaque année. Bah, on se dit qu'on est au grand air, loin de la femme et loin du boulot. Au fond, c'est un mal nécessaire, il faut ce qu'il faut. N'empêche que si c'était moi qui commandais, seulement voilà, donc pas la peine d'en discuter, d'en rajouter. On était donc dans un buisson. D'abord, on n'a rien eu à faire. Alors on a bu quelques verres, tapé le carton. Je m'en vais, le pays m'appelle. Adieu, mamie, j'ai le cœur gros. J'aimerais que tu te rappelles que ton homme était un héros. Pendant 3 jours, ça a duré. Vous imaginez la tension ? Quand tout à coup, grosse émotion, ça a pété. On finissait juste ses poutres. J'avais 50 à l'as d'atout. Arrive le lieutenant Amstutz. Arrêtez tout ! Amstutz, il est dans la chimie. C'est dire s'il est compétent. On nous annonce une escadrille couchée, bon sang ! Les arbitres se sont pointés. 4 gars de l'état-major. Ils nous ont dit, vous êtes morts, c'est terminé. Je m'en vais, le pays m'appelle. Adieu, mamie, j'ai le cœur gros. Voilà qu'il pleut, voilà qu'il gèle. C'est pas facile d'être un héros. 14 fois en 3 semaines que l'on s'est fait neutraliser. À la fin, il paraît quand même qu'on a gagné. On a défendu des villages, des routes, une gare de triage. À chaque fois, les bleus s'amenaient, nous balayaient. Quand on distribuait nos biscuits, comme d'habitude aux écoliers, en rigolant, moi je pensais, pauvre petit. Et pareil pour les jeunes filles, qu'on taquinait dans les cafés. Tous ces gens-là, en théorie, étaient crevés. Je m'en vais, le pays m'appelle. Adieu, mamie, j'ai le cœur gros. Parfois, le doute m'interpelle. C'est pas facile d'être un héros. Heureusement, il y avait l'ambiance. On aura eu bien de la chance pour chanter Bugnon et tout fort, c'est un ténor. Et Guignet, ce rude gaillard, connaît des centaines d'histoires, des Belges, des Fribourgeoises aussi, qu'est-ce qu'on a ri. Sauf le bleu qui l'a ramené à tout bout de champ, mais qu'est-ce qu'on fout. Moi je lui disais, va à Moscou voir comment c'est. Et maintenant tout est fini. On a servi notre patrie, on a fait comme on nous a dit, et ça suffit. Et je reviens vers toi, ma belle, fourbu, le foie un peu plus gros. Il faudra pousser ma gamelle et nettoyer mes godillots. C'est pas facile d'être un héros.
Thank you. s'il vous plaît. Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin, vous m'avez faite statue. Et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. C'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent, libre aussi. Regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous mon pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Aïcha, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.